is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copanado.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de Climat de lutte, une saison qui démarre très fort dans les vapeurs de Lacrymo près de Castres, où l'ancien monde s'arc-boute sur un projet écocide et antisocial, celui de l'autoroute A69. Tout l'été, les militants qui s'opposent à la destruction de 400 hectares de terres agricoles pour réaliser une autoroute, qui d'ailleurs privatisera une grande partie de la route actuelle, ont subi des violences absolument inouï. Il est apparu pendant la campagne des législatives, en juin et juillet, que ce projet n'est pas seulement celui de la société Pierre Fabre et d'Atosca, mais aussi celui de la droite et de l'extrême droite locale, alors que le Nouveau Front Populaire et ses candidats ont depuis des années, pour certains, pris position contre. Nous allons justement commenter ce soir trois propositions phares de ce Nouveau Front Populaire. À ces trois propositions, c'est décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières, la deuxième, adopter un moratoire sur les mégabassines, et la troisième, mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités. Eh bien, on voit, en ce qui concerne le moratoire sur l'A69, les associations qui le combattent ont fait la démonstration qu'il est absolument urgentissime, car de nombreuses irrégularités entachent ce projet. Elles ont d'ailleurs déposé cet été au pénal plusieurs plaintes, trois plaintes contre X. Mais les coups de matraque ont repris à la ZAD de Lacrémarbre le 30 août dernier pour déloger les occupants, y compris les écureuils qui restaient perchés dans les arbres. Concernant la deuxième proposition phare, le moratoire sur les bassines, elle était bien sûr au centre des débats à Mel du 15 au 21 juillet dans les Deux-Sèvres. De nombreux débats, conférences, tables rondes ont eu lieu dans ce village de l'eau qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Deux actions ont particulièrement été réussies, l'une près de Poitiers pour s'opposer à un projet de bassine et l'autre à La Rochelle, pour exiger des règles de partage de l'eau. Parce que oui, l'agro-industrie s'accapare l'eau pour faire pousser un maïs qui ne nous nourrit pas vraiment, mais sur lequel une marge financière importante peut être faite en spéculant sur les cours à l'export. C'est pour ça que la manifestation se déroulait devant les grands silos à grains du port de la Palisse qui servent à cette spéculation. Mettre en place des règles précises de partage de l'eau, c'est la troisième proposition du Nouveau Front Populaire et c'est une urgence dans notre société où le capitalisme impose de plus en plus sa logique aux États. Il existe pourtant bien une directive européenne et une loi sur l'eau qui sont sans équivoque. La gestion de la ressource en eau doit garantir en priorité l'alimentation humaine. Nous allons entendre ce soir à quel point cette loi est malmenée à travers différentes situations qui étaient évoquées mardi 16 juillet au matin à Mel. La première partie d'une table ronde évoquait la dégradation de la qualité de l'eau, des eaux de surface, souterraines ou bien des eaux destinées à la consommation humaine par les pesticides, un problème totalement ignoré par l'extrême droite qui défend une vision de la ruralité complètement fantasmée, comme nous le disions dans notre émission du 27 juin, à la veille du premier tour. Pour eux, le monde rural est éternel, entre guillemets, n'est bien compris que par des chasseurs ou des agriculteurs, et ce sont eux qui savent ce qui est bon pour la nature, pas les bobos des villes, bien sûr. Cet agrarisme qui se conjugue très bien avec l'agriculture 2.0, c'est assez paradoxal, mais voilà, avec le technosolutionnisme, nie complètement les dégâts de l'agro-industrie, et notamment ceux des pesticides. Alors même que les premières victimes de ceci sont les agriculteurs, leurs familles ou les salariés de l'agroalimentation. C'est cette contradiction que développait la première partie de cette table ronde avant d'aborder plus spécifiquement dans la deuxième partie la pollution de l'eau par les pesticides et tous les polluants. On écoute le premier intervenant de cette table ronde, Michel Bénard, porte-parole du collectif Soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest.
Oui, bonjour. Donc moi, je viens d'auprès de Rennes, en Bretagne. Et donc, je fais partie d'une association au nom un peu long, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, collectif, donc l'idée de solidarité, de soutien aux victimes des pesticides. De l'Ouest, c'est un peu restrictif, parce qu'on est une association qui n'est constituée que de bénévoles, et notre aire d'action est d'abord située sur le Grand Ouest. Mon propos va être d'abord autour des gens qui sont malades des pesticides, que ce soit des professionnels, essentiellement des agriculteurs, ou que ce soit des riverains qui ont subi les mêmes molécules et qui souffrent des mêmes maladies, des mêmes conséquences que les professionnels. Notre association est née en 2015 d'une émission sur France Inter d'Inès Leroux qui parlait des salariés de la plus grosse coopérative bretonne de l'époque qui s'appelait Triskalia, où plusieurs salariés avaient été intoxiqués sur leur lieu de travail par un insecticide, le Nuvan Total, qui avait été utilisé sur un stockage de céréales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça avait fait beaucoup d'émoi, en particulier sur la Bretagne, et un mouvement de solidarité s'était créé auquel on a participé au démarrage. On a organisé beaucoup de débats dans les communes, les villes, et à chaque fois, il y avait des gens qui se lavaient dans la salle en disant ben, « Moi aussi, j'ai une maladie qui est liée aux pesticides. Moi, j'ai Parkinson. Enfin, je pense que c'est lié aux pesticides. » Donc, on s'est créé en association en 2016. Donc, ça va faire 9 ans maintenant, bientôt. Et on est une association aujourd'hui de 530 adhérents. Alors, on s'est fixé comme objectif l'interdiction des pesticides. Nous, on pense qu'il ne s'agit pas de réduire, il s'agit d'arrêter. Alors évidemment, c'est radical, c'est peut-être utopique, on sait que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais on pense qu'il faut affirmer haut et fort qu'il n'y a pas d'autre solution que l'arrêt de l'utilisation des pesticides de synthèse. On s'est fixé comme objectif très concrètement deux axes. Le premier, le soutien aux gens qui ont des maladies liées aux pesticides. Donc, en priorité, les professionnels. Les professionnels, quels sont-ils ? Ce sont d'abord les paysans. C'est les plus gros utilisateurs de pesticides. Mais ce n'est pas que les paysans, c'est aussi les paysagistes. C'est les salariés des espaces verts, des communes. Maintenant, c'est interdit dans les communes, mais jusqu'à 2017, ils en ont utilisé. C'est aussi tous les salariés des coopératives, des entreprises agricoles qui manipulent ces produits-là. Et ces gens-là sont touchés par des maladies, pour un certain nombre de maladies, qui sont reconnues comme des maladies professionnelles. Donc, qui sont inscrites, il existe deux grands tableaux de maladies professionnelles, un pour le régime général et un pour le régime agricole. Et dans le régime agricole, les principales maladies qui, à ce jour, sont reconnues explicitement comme étant liées aux pesticides, c'est d'abord Parkinson, la maladie de Parkinson, qui a été reconnue en 2012. Ensuite, ce sont les lymphomes non-Hodgkiniens, qui ont été reconnus en 2015. Sur ce même tableau, se sont ajoutés les myélomes, la leucémie lymphoïde chronique. Et le dernier tableau en 2021, c'est le cancer de la prostate. Et il existe un autre tableau qui est, concerne les hémopathies liées au contact avec le benzène. Le benzène, on le trouve de deux manières, dans l'entretien du matériel agricole, les huiles, etc., quand on fait l'entretien du matériel. Mais il est aussi un coformulant caché de beaucoup de pesticides, de formules commerciales de pesticides. Donc, et on se bat également pour d'autres maladies pour lesquelles on commence à obtenir des succès. En priorité, les tumeurs cérébrales. On a fait reconnaître un certain nombre de gens pour des tumeurs cérébrales, glioblastome, oligodendrogliome, et aussi des formes de des maladies neurodégénératives comme la démence à Cordelévy. Et on se bat aussi pour le cancer de la vessie, du côlon, du rein, voilà, pour lesquels aussi il y a des liens à tester. On s'appuie beaucoup sur le rapport de l'INSERM 2021 pour justifier ces combats. À ce jour, on a accompagné un peu plus de 170 personnes en reconnaissance en maladie professionnelle. Pourquoi se battre pour faire reconnaître des maladies professionnelles ? Plus de gens se font reconnaître en maladie professionnelle, plus on atteste que ces produits-là sont extrêmement dangereux pour la santé. En fait, il y a une grande omerta dans les campagnes et dans les médias et partout. Les gens, en priorité les agriculteurs, ne sont pas au courant de ce droit qu'ils ont à être reconnus en maladie professionnelle. En plus, ils sont souvent dans le déni. Accepter de se faire reconnaître pour une maladie dont on a été quelque part, on pense avoir été soi-même l'artisan de sa maladie, puisque on a utilisé des pesticides toute sa carrière, on les a souvent défendus, on s'est opposé à ceux qui sont contre. Donc, une fois qu'ils savent qu'il y a un lien avec les pesticides, le pas d'aller faire la démarche d'être reconnu n'est pas facile. Un autre obstacle c'est que cette reconnaissance passe par le régime social de sécurité sociale du monde agricole qui s'appelle la mutualité sociale agricole. Et celle-ci, elle est gérée par qui ? Elle est gérée par la FNSEA. La FNSEA, c'est le principal syndicat agricole en France et qui est un fervent défenseur des pesticides. Et ce n'est pas eux qui vont aller dire à leurs propres adhérents « Allez vous faire reconnaître en maladie professionnelle si vous avez une de ces maladies qui sont dans les tableaux. » Voilà. Et donc, on a affaire à combattre à la fois ce déni chez les gens qui sont atteints de ces maladies et combattre aussi l'omerta, voire l'agressivité, certaines fois, de ceux qui défendent des pesticides. Donc ça, c'est le premier axe de notre action, soutenir des gens, les accompagner. C'est basé sur beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'actions collectives. On va pratiquement tous les mois au tribunal, à Brest, à Saint-Brieuc, à Rennes, à Laval, soutenir des gens qui contestent le refus de maladies professionnelles. Ou aussi les. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que être reconnu en maladie professionnelle, ça donne droit à une rente aussi financière. Et on conteste souvent et le montant et la date de départ de cette rente. Et on fait connaître notre action par la médiatisation autour des actions qu'on mène. Donc, c'est à la fois une action très collective et de terrain.
C'était Michel Bénard qui intervenait donc à Mel dans la première table ronde portant sur les dégâts de l'agro-industrie. La contamination aux pesticides rend donc malade, on le sait. Mais c'est encore mieux de le faire savoir et de défendre des dossiers de maladies professionnelles pour dénoncer concrètement ce scandale. Sur la question de l'omerta et de la difficulté qu'ont les agriculteurs à se reconnaître eux-mêmes victimes des pesticides, nous avons fait en juin une autre émission avec Giovanni Prete, qui nous a présenté son excellent ouvrage « L'agriculture empoisonnée, le long combat des pesticides ». Je vous invite à retrouver le podcast. Mais est-on sûr que ce sont les pesticides qui rendent malade ? Le problème n'est-il pas ailleurs ? D'ailleurs, ces produits sont autorisés, non ? Que dit la science ? C'est le sujet abordé par l'intervenant suivant, Pierre-Michel Pirineau, président de l'AMLP, l'Association des médecins sur les pesticides, que nous avons déjà entendu plusieurs fois dans Climat de lutte. On l'écoute.
Bonjour à tous. Moi, je voulais, pour commencer, revenir sur ce qui s'est passé en France, mais aussi en Europe en début d'année. Vous savez qu'il y a eu une crise agricole, qu'il y a eu des manifestations importantes, mais pas seulement dans notre pays. Et dans notre pays, le gouvernement a pris un certain nombre de réponses. Et parmi ces réponses, eh bien, il y avait l'arrêt de la diminution de l'usage des pesticides qui a été immédiatement mise en avant à la demande de la FNSEA, pour ne pas la nommer. Et ce mouvement avait déjà débuté quelques semaines ou mois auparavant en Europe, avec le flingage en plein vol du plan européen de réduction des pesticides qui s'incluait dans le Green Deal. Et ce que je voulais souligner, c'est que tout ça, ça repose sur un choix politique très clair, qui est la mise à l'écart des données scientifiques. Les données scientifiques, elles sont nombreuses. Je vais citer les consensus qui ont été faits en France par l'INRAE et l'INSERM. Alors l'INRAE, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et qu'est-ce qu'ils ont produit ? Ils ont produit en 2022 une expertise qui montre que les pesticides sont en cause dans l'effondrement de la biodiversité sur tous les niveaux d'organisation biologique. Que ce soit les vers de terre, les insectes, les amphibiens, les reptiles, les poissons, les oiseaux, les différents mammifères. Et je vous rappelle que nous sommes des mammifères. Et puisqu'ici on est là pour parler d'eau, les premiers impacts des pesticides, ils sont effectivement visibles à ce niveau-là, au niveau de l'impact sur les amphibiens, sur les poissons. Quasiment tous les pesticides sur le marché sont extrêmement dangereux pour le milieu aquatique, H410 ou H400, je ne sais plus comment c'est signifié, mais bon. Ça, c'est la première expertise. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle d'expertise, ce n'est pas deux bédouins dans leur coin qui ont fait, qui ont partagé une étude scientifique et puis qui considèrent que ça y est, ils ont trouvé le Graal. Ce n'est pas ça du tout. C'est un rassemblement de scientifiques indépendants dont les liens d'intérêt sont soigneusement étudiés par rapport au sujet étudié, justement, et qui font une revue de la littérature internationale. Donc c'est en aucune façon une revue de la littérature seulement française. Et donc l'INRAE a fait cette expertise scientifique que je viens de vous résumer à très très grands traits, et l'INSERM, qui est l'Institut National de la Recherche Médicale, a fait deux fois de suite, en 2013 puis en 2021, le même travail, c'est-à-dire un travail de consensus scientifique qui établit des niveaux là, de causalité. Ils ont exprimé les choses en disant la causalité est de présomption forte, moyenne ou faible, et c'est ces liens de présomption qui fondent leur opinion scientifique. Et c'est tout ça qui a, d'un revers de main, était écarté à la fois au niveau européen et à la fois au niveau français. En gros, il y a 18 pathologies, ou 17, je ne sais plus, pour lesquelles un lien est fait avec l'exposition aux pesticides chez les professionnels. En 2013, il y avait une littérature quasiment inexistante pour les riverains, et en 2021, il y a plusieurs pathologies qui sont en gros les mêmes que celles qu'on retrouve chez les professionnels, mais avec des niveaux de preuves un peu moins forts, donc des maladies neurodégénératives, certains cancers. Et on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des effets qui ont été mis en évidence chez les enfants des professionnels exposés pendant la grossesse. Leucémie, tumeur cérébrale. Donc, les choix politiques qui sont là derrière, c'est que les données scientifiques, les données sanitaires et biologiques passent après la défense d'un système productiviste. Ça, c'est un choix très clair, mais qui n'a pas été énoncé, bien entendu. Et le deuxième choix qui est derrière, qui est plus pernicieux, c'est que la science académique est petit à petit mise de côté. Alors maintenant, on va passer à l'eau. Concernant le débat sur la quantité, mais sur le débat sur la qualité de l'eau, nous, l'association existe depuis une bonne dizaine d'années. On nous avait toujours dit que c'était un des milieux les plus surveillés. Il était un peu incongru de demander si les métabolites des pesticides étaient recherchés dans l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un métabolite ? C'est un produit de dégradation. Vous savez bien que une molécule, une fois qu'elle va être dans l'environnement, elle ne va pas rester telle qu'elle, elle va se transformer. J'ai dit dégradation, mais ce n'est pas forcément une dégradation, c'est une transformation en d'autres molécules et qui sont malheureusement parfois, pas toujours, heureusement, plus dangereuses que la molécule mère. Donc il est pertinent et logique d'essayer de savoir si les pesticides qu'on retrouve dans l'eau se transforment en ces métabolites. Question incongrue jusqu'à avril 2023. En avril 2023, l'ANSES publie. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est une agence française qui a une responsabilité un petit peu particulière, qui est le fait qu'elle délivre les autorisations de mise sur le marché des pesticides. Et elle fait, en parallèle de ça, un certain nombre d'explorations scientifiques sur des sujets X ou Y. Et là, elle avait décidé de faire une recherche de métabolites dans l'eau au niveau français, dans tous les départements, alors donc métabolites qui n'étaient pas recherchés jusqu'à présent. Certains étaient recherchés, quelques-uns, une dizaine, une douzaine, mais en gros, on estime que sur 350-400 molécules, elles ont chacune 5 à 10 métabolites, vous n'avez qu'à faire le calcul. Donc tout ça n'est pas recherché. En avril, l'ANSES publie son étude et on s'aperçoit que deux produits à eux seuls dépassent dans 50% des eaux destinées à la consommation humaine la norme de qualité, et que l'un d'eux conduit, par le dépassement de cette norme de qualité, à des soucis pour 30% de la population française, estimée, ce qui est quand même énorme. Alors pourquoi je dis des soucis ? Parce qu'en fait, la réglementation, elle a un peu deux étapes. Une première étape, il ne faut pas dépasser 0,1 microgramme litre. Si vous les dépassez, molécule par molécule, vous dépassez la norme de qualité. Et les autorités vous diront que dépasser la norme de qualité, ça ne rend pas forcément l'eau imbuvable. C'est vrai, mais ils oublient de dire que s'il n'y avait qu'une seule molécule qui dépassait, ça serait bien gentil. Mais en règle générale, c'est de façon constante, vous êtes exposé à des cocktails parce qu'il y a des pesticides, mais il y a d'autres produits comme les PFAS dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Donc il serait important, quand il y a une limite de qualité qui est dépassée, de mettre en route tout un tas d'actions, à la fois pour limiter la contamination de l'eau et pour limiter les effets cocktails avec d'autres molécules. Donc, une molécule en France dépasse dans 30% des eaux destinées à la consommation humaine ce fameux seuil par son métabolite. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard, c'est-à-dire il y a un mois ou deux d'ailleurs à peine, l'ANSES a produit un réexamen du caractère pertinent ou non du métabolite du chlorothalonil, pour ne pas le nommer, de son principal métabolite, et elle a considéré qu'il n'était, alors qu'elle considérait jusqu'à présent qu'il était pertinent, qu'il ne l'était plus. Alors on ne va pas rentrer dans le débat technique, qu'est-ce que ça veut dire, pertinent, pas pertinent, et pourquoi elle considère ça, mais il y a quand même un argument important à savoir, c'est qu'au niveau européen, il y a du droit qui nous protège, et qu'est-ce qu'il dit ce droit ? C'est que quand la molécule mère est un cancérigène, certain ou probable, ce qui est un niveau de preuve extrêmement élevé et donc assez rarement atteint, eh bien, quand la molécule est de cet ordre-là, c'est le cas du chlorothalonil, eh bien, il est considéré de prendre, au titre du principe de précaution, qui vient encore d'en prendre un coup, des mesures de restriction et en tout cas de reconnaissance du caractère pertinent des métabolites qui en suivent. Et là, c'est absolument pas ce qu'a fait l'ANSES. Elle aurait dû s'appuyer pour écarter ça sur des essais toxicologiques, ce qu'elle n'a absolument pas fait. Donc voilà, sur la qualité de l'eau, on a quand même un certain nombre de questions à se poser. Et quelles sont les implications politiques derrière tout ça? Eh bien, tout simplement, le fait de dire ce truc qu'on retrouve au-dessus de 0,1 un peu partout, ben finalement, maintenant, on considère que ce n'est pas pertinent, ça veut dire qu'on va le négliger dans les analyses et ça veut dire qu'on ne mettra aucune action de prévention sur les aires de protection des captages en route à cause de ça. Je vous rappelle que ça concerne toujours, a priori, plus d'un tiers des eaux destinées à la consommation humaine. Et c'est justement sur ces histoires de protection des aires de captage que bloque le débat au niveau de toutes nos communes.
Conclusion de cette magistrale intervention de Pierre-Michel Perrineau, les scientifiques ont beau faire leur job et mettre en évidence les dangers de ces produits, l'État se débine de ses responsabilités en contournant systématiquement le principe de précaution. Oui, mais, nous dirait notre encore président, il faut faire confiance à la technologie qui va nous trouver des solutions. C'est ce qui a été exploré dans la deuxième partie de cette table ronde, avec pour commencer Jean-Claude Oliva, porte-parole de la Corde Eau Île-de-France, dont l'association dénonce une fuite en avant avec l'apparition de nouvelles technologies comme l'osmose inverse basse pression.
Bonjour à tous. Voilà, vous savez qu'en ce moment, les alertes se multiplient sur la qualité de l'eau potable. Bon, vous parliez tout à l'heure du chlorothalonil. Ces derniers jours, on parle beaucoup de PFAS, d'un nouveau PFAS qu'on n'avait pas repéré jusqu'à présent, qui s'appelle le TFA et qui apparemment est en quantité très abondante dans la Seine et puis aussi dans l'eau potable des Parisiens. Donc bien sûr, on est tous préoccupés par cette situation, par la qualité de l'eau. Et donc dans cette situation, il y en a qui nous proposent des solutions qui pour moi sont des vraies fausses solutions. Et alors il y en a une dont je voudrais vous parler en particulier, c'est l'osmose inverse basse pression. Parce que nous, en Île-de-France, on a tout un débat sur ça. Enfin, c'est plus qu'un débat, d'ailleurs. Alors, d'abord, peut-être pour vous dire en deux mots ce que c'est. Vous avez entendu parler, sans doute, du dessalement de l'eau de mer. Eh bien, l'osmose inverse basse pression, c'est à peu près la même chose, mais c'est pour l'eau douce. Pour dessaler de l'eau de mer, donc vous faites passer dans de très petites membranes, avec des membranes avec des pores très fins, l'eau de mer, sous pression, avec beaucoup d'énergie. Et vous récupérez d'un côté de l'eau douce et de l'autre un saumure, un concentré de sel. Pour l'eau douce, pour l'osmose inverse basse pression, en fait, vous faites passer pareil. Donc il y a moins de pression quand même que pour le dessalement de l'eau de mer. Et donc d'un côté, vous récupérez une eau qui est déminéralisée, c'est-à-dire en fait, c'est une eau qui n'est pas potable. Et de l'autre, vous récupérez les concentrats, c'est-à-dire avec tous les polluants que vous avez enlevés, mais aussi les sels minéraux. Donc c'est cette technologie que le syndicat des eaux d'Île-de-France, alors le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est un grand syndicat qui couvre aujourd'hui à peu près, qui dessert 4 millions d'usagers en Île-de-France autour de Paris et qui est lié depuis un siècle, depuis sa création, avec la multinationale Veolia. Et donc voilà, alors quels sont les problèmes? Donc eux, ils veulent absolument faire ça. Donc d'abord, dans un premier temps, ils avaient fait ça dans un site, ils voulaient faire ça dans un site pilote à Arvigny, en Seine-et-Marne. Il y a eu une levée de boucliers et finalement, ils n'ont pas pu le faire. On a réussi à les empêcher de le faire. Mais maintenant, ils veulent le faire dans leurs trois grandes usines. Et vous allez voir, c'est un programme colossal. Et donc, voilà, les inconvénients, les problèmes de cette technologie, d'abord, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, en fait, c'est une technologie qui consomme, pour produire la même quantité d'eau, les usines d'eau potable, elles consomment 2 à 3 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui avec les filières classiques. Le prélèvement d'eau aussi augmente. C'est-à-dire que pour produire la même quantité d'eau potable, il faut prélever plus d'eau dans le milieu naturel, environ 15% en plus. Vous voyez, en période de sobriété, tout ça, c'est pas évident. Ensuite, il y a la question du qu'est-ce qu'on fait du concentrat, c'est-à-dire le concentrat où il y a tous les polluants, les sels minéraux, etc. La solution qu'ils ont, pour le moment, c'est de le rejeter dans les cours d'eau. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment une solution. Et voilà, et ça pose un très grave problème, notamment pour les PFAS, parce que les PFAS, en fait, il faut s'en débarrasser des PFAS. Il faut non seulement ne plus en produire, ne plus en jeter, ne plus en rejeter dans les cours d'eau, ni ailleurs, mais il faut détruire ce qu'on a. Et là, en fait, c'est pas du tout ce qui est fait. Un autre problème de cette technologie, c'est le coût très élevé, en fait. Et donc, du coup, ça pose une autre question, c'est qui peut se le permettre ? Là, pour la petite usine pilote, c'était 34 millions d'euros. À l'échelle de l'Île-de-France, pour les trois grandes usines du CEDIF, aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'euros hors taxes. Donc, vous voyez, le CEDIF peut se le permettre. Alors, enfin, si on peut dire. Les grands hauts de Paris peuvent se le permettre aussi s'ils avaient la volonté d'aller dans ce sens, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Mais un petit syndicat des eaux, la régie d'une commune, même une petite délégation de services publics ne peuvent pas se permettre ça. Donc, on est en train de créer une inégalité terrible, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui auraient une eau de qualité supérieure et d'autres non, qui continueraient à boire une eau polluée. Donc ça pose aussi un grave problème d'égalité de tous les usagers. Je disais tout à l'heure que c'était une eau déminéralisée qui sortait de l'osmose inverse basse pression. Ça veut dire qu'il faut la reminéraliser parce qu'une eau déminéralisée n'est pas potable. Et donc il y a deux façons de la reminéraliser. C'est soit d'ajouter des sels minéraux en poudre, mais bon, c'est pas ce qui a été choisi par le CEDIF. Là, c'est de mélanger avec une eau, ils ont choisi de mélanger avec une eau de la filière classique. C'est-à-dire qu'il y aurait 75-80% OIBP, osmose inverse, et 20-25% filière classique. Mais du coup, vous comprenez bien que si vous faites ça, la promesse d'enlever complètement les polluants, les PFAS, etc., elle s'envole. Vous les réduisez, vous en avez moins, mais vous ne les enlevez pas complètement. Donc l'argument pour vendre cette technologie et pour l'imposer n'est pas valable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le domaine du curatif, il y a d'autres possibilités technologiques moins coûteuses, plus sobres. Donc une possibilité qui est souvent employée aujourd'hui, c'est les charbons actifs à renouvellement continu. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse l'eau en permanence, quand on voit qu'il y a un pic de pollution, eh bien on renouvelle le charbon actif d'une façon plus rapide pour que justement que les polluants qui précipitent sur les petites graines de charbon soient tout de suite enlevés et qu'on remette du charbon neuf qui peut capter d'autres polluants. Donc ça c'est une technique qui est massivement employée et qui marche plutôt bien, y compris pour la plupart des PFAS. Mais il y a aussi toute une effervescence technologique en ce moment. Donc il y a des nouveaux procédés qui sont en train de voir le jour, par exemple avec des mousses. Donc des mousses qui captent les PFAS. Ensuite, tout ça remonte en surface. Et puis on balaye la surface et on enlève la mousse avec les PFAS. Donc cette effervescence technique nous dit que finalement, d'ici dans quelques mois, dans quelques années, on va trouver des solutions sans doute moins coûteuses et plus intéressantes que l'osmose inverse basse pression. Et nous, ce qui nous gêne beaucoup, c'est que le CEDIF, en fait, s'engage dans un projet très cher dans lequel, une fois qu'il sera engagé, il ne pourra plus en sortir. Donc c'est un projet pour 30, 40 ans. Et ça veut dire aussi qu'il va continuer avec Veolia, qui est l'opérateur de ce projet, pendant 30 ou 40 ans. En fait, pour mettre en place cette technologie, là, il faut une dizaine d'années. Le temps de faire tous les travaux. En fait, il faut reconstruire les usines de production d'eau potable. Donc, ce n'est pas la solution immédiate non plus qu'on voudrait nous vanter. C'est-à-dire que pendant 10 ans, là, on va continuer à boire cette eau avec les pesticides et avec les PFAS.
L'intervenant suivant, David Brissot, a évoqué une autre fuite en avant, vantée par notre encore président dans son plan eau, déclamé sur le barrage de Serre-Ponçon en mars 2022. la réutilisation des eaux usées, réut pour les intimes.
Bonjour à tous. Donc, moi, je fais partie de ce collectif Veille Information Transition Eau en Vendée, un collectif assez jeune, c'est le BNM 85, on va dire. Et donc, pour vous parler donc, du retraitement des eaux usées et de ce qui se passe en Vendée, je me dois de vous faire une petite remise dans le contexte historico-politique. Vous allez rire parce que je vais commencer en 1625 en Vendée, après les guerres de religion, où en fait le culte catholique n'est plus porté parce que donc, les églises ont été brûlées, etc. Et on a une évangélisation très tardive, une réévangélisation. Derrière, on a les guerres de Vendée. Et en guerre de Vendée, on subit un génocide de 400 000 personnes. La monarchie est restée toujours présente et donc le peuple vendéen souvent asservi. Et je voulais vous emmener par là parce qu'après, au début du XXe, la petite parenthèse des syndicats de paysans-travailleurs impulsés par l'abbé Trochu en Bretagne qui font effervescence dans le Nord-Vendée, eh bien l'évêque de Luçon de l'époque a fait un courrier qui est lu dans toutes les messes de Vendée pour dire qu'il ne faut pas adhérer au syndicat des paysans-travailleurs, surtout pas, parce que ça va foutre le bordel avec notre bon seigneur. Et puis dans les années en 1932-33, on a le premier siège régional de la SOR. Vous connaissez la SOR qui se monte en Vendée. Voilà. Et la particularité géologique de la Vendée, c'est que sur les deux tiers nord du département, on n'a pas de nappe phréatique ou des nappes qui ne permettent pas un prélèvement pour l'approvisionnement en eau potable ou l'irrigation. Par contre, sur le tiers sud Vendée, on a la nappe du Dogger, dans laquelle est prélevée 40 millions de mètres cubes pour l'irrigation tous les ans. C'est une nappe de surface qui effectivement peut être impactée par les produits phyto. On a des zones de captage qui ont été fermées également, mais qui est très réactive parce que de surface. Et dans ce contexte-là, la Vendée, effectivement, comme en Aquitaine ou en Gironde, on a également 2% des cours d'eau qui ont une bonne qualité d'eau sur le département, dont toutes les masses sont atteintes. Et dans les années 60, du fait de s'apercevoir que géologiquement, c'était difficile d'avoir des réserves d'eau potable en souterrain sur les deux tiers nord du département, s'est mise en place une stratégie qui vise à stocker de l'eau en surface avec la construction de complexes hydroélectriques. Ils vont permettre effectivement d'approvisionner les populations en eau potable. Sauf que dans les années 70, on a le BRGM c'était un monsieur de la Meuse qui est parachuté en Vendée pour faire des tests. Et là, on découvre cette ressource inépuisable en Sud-Vendée dans les nappes phréatiques. Donc, il y a de multiples forages qui sont faits des années 70 à 90 pour l'irrigation des cultures, avec le développement de la filière maïs, mais dans un deuxième temps, d'abord le tabac, pour arriver donc après à la situation qu'on connaît aujourd'hui, une appropriation totale de cette nappe phréatique, à part un captage pour la ville de Fontenay-le-Comte, par les lobbies agro-industriels, avec l'installation de Pioneer France Maïs, qui a été racheté par le groupe Corteva, qui a été racheté par le groupe Dupont. La filière championne au niveau européen pour ce qui concerne les semences de maïs hybride et OGM. Donc cette filière va s'installer en Sud-Vendée, sur ces terres très fertiles, là où la ressource est sécurisée et donc par la mise en place en plus de bassines. Donc on est un département, moi les premières bassines, les premiers dossiers, c'est en 2002. Voilà, depuis 2002, je suis sur le pont sur les bassines. Et donc, vu qu'on a cette culture de cette population qui est habituée à ne pas s'élever contre l'autorité, eh bien, on a eu énormément de mal à enrayer ces projets de bassines. Et donc, on est le département test au niveau européen. Pour arriver donc jusque dans les années 2010, on s'aperçoit que ce modèle, eh bien, il va pas pouvoir fonctionner parce qu'il va nous manquer 8 millions de mètres cubes d'eau potable pour approvisionner le littoral avec les pics de tourisme qu'on connaît l'été en Vendée. Et donc, dans les années 2000, on va créer l'interconnexion de tous ces barrages sur la Vendée, ce qui fait qu'on peut renvoyer de l'eau du Sud-Vendée au Nord-Vendée, sur la côte, avec tous ces complexes de barrages. Mais à aucun moment, Vendéo, les conseils territoriaux, où il n'y a aucune volonté politique, même dans les projets de territoire de gestion de l'eau, de se réapproprier de l'eau de la nappe phréatique du Sud-Vendée, hein, parce qu'elle est sous tension. On s'est aperçu qu'on prélevait 100% en plus que ce que le milieu pouvait donner. Donc déjà, les volumes ont descendu et il faut qu'ils diminuent encore de moitié en termes d'irrigation pour retrouver un équilibre sur les écosystèmes du Sud-Vendée. Et donc forcément, si on dit en plus on va reprendre 1 million, 2 millions, 3 millions de mètres cubes, ce qui est rien à côté des 40 millions qui sont tapés dans la nappe, pour la rediriger vers les usines de potabilisation qui sont aujourd'hui alimentées par les barrages, eh bien on a une ressource là tout de suite sous nos pieds qui est propre, parce que la Vendée, c'est pas la France. 95% de l'eau potable en Vendée est issue du retraitement des eaux de surface. Voilà. Donc on a 120 millions de mètres cubes prélevés en Vendée tous les ans, tout usage confondu. On a à peu près 40 millions de mètres cubes d'eau potable prélevée en surface, retraitée. Et on en a autant en nappe phréatique qui est balancée pour l'irrigation du maïs. Donc les choix politiques qui ont été faits là, ces dernières années, au lieu de se réapproprier cette ressource, c'est d'aller vers la potabilisation des eaux usées. Donc en gros, non seulement donc là on nous fait boire de l'eau dégueulasse de surface, mais après on veut nous faire boire notre pisse, pour se rester poli. Et donc on a le projet Jourdain, c'est un projet qui utilise l'osmose inversée. Donc là c'est la station des Sables d'Olonne, la station d'épuration des Sables d'Olonne qui approvisionne cette usine. Et vu que ça part d'un délire d'un ingénieur vendéen qui avait en fait l'appui du conseil départemental pour monter son projet expérimental, eh bien malheureusement ça a pu se mettre en route avec les financements de l'Union européenne, entre autres du département de la région, pour un projet qui va nous coûter à la fin 40 millions d'euros pour potabiliser 2 millions de mètres cubes. Et vu que l'ingénieur là, il était super sûr de lui, eh bien, ils ont commencé par envoyer l'eau usée directe, brute, sans la filtrer, sans mettre de filtre. Donc en fait, l'usine, elle s'est saturée tout de suite. Ils ont d'énormes, elle est à l'arrêt depuis des mois. Ils avaient d'énormes problèmes. Ça a eu des surcoûts assez importants. Et en parallèle de ça, Vendéo a reçu un rapport de l'ARS qui les mettait en défaut parce qu'ils doivent produire normalement 12 prélèvements en un an qui doivent être OK pour qu'ils puissent donc connecter cette flotte. Et en fait, ils en avaient 2 sur 12, 2 prélèvements OK sur 12. Donc l'ARS leur a mis la pression à Vendéo. Veolia n'était pas au courant, la directrice de l'usine de potabilisation n'était pas au courant de ce rapport, pour vous dire. La grosse arnaque, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, ouais, on a une eau qui... on est obligé de mettre des tuyaux de plomb pour pouvoir recevoir cette eau qu'il faut reminéraliser, parce que sinon elle attaque la tuyauterie. Ce qui fait qu'on a 20 millions d'euros pour la construction de l'usine, et après 20 millions d'euros pour les canalisations, pour envoyer cette flotte à 30 km avec un parcours de reminéralisation et pour la rediluer dans un lac, pour la repomper, pour la repasser dans une usine de potabilisation, pour la renvoyer dans le réseau. Voilà. Donc on est à cet ordre de délire total où on voit le parfait avancement main dans la main des lobbies agro-industriels et des vendeurs d'eau. Hein, là, c'est Veolia. La SOR s'est construit et a construit son empire sur la potabilisation des eaux de surface et elle s'est créée en Vendée. Elle a fait ses armes en Vendée et maintenant, on connaît cette multinationale. Et donc là, on s'aperçoit que les gens de Vendéo sont dans la chambre d'agriculture, sont à l'agence de l'eau, sont à Orléans au comité de bassin, sont en lien complet avec les agriculteurs qui mettent directement en concurrence que les agriculteurs pompent aussi dans les eaux de surface, hein, dans les lacs, Et donc, on arrive à des schémas complètement extraordinaires pour prélever, pour préserver l'irrigation d'un lot de maïs. On va demander aux gens de Vendéo de reconnecter des réseaux qui n'est plus reconnecté, travailler jour et nuit pendant 72 heures pour maintenir l'irrigation du maïs. Donc là, c'est aussi comment bien prendre en compte que ce jeu de la pollution des eaux, il est volontaire, il est voulu, parce que derrière, c'est beaucoup plus rentable et ça développe beaucoup plus d'économies de potabiliser une eau carrément dégueulasse que potabiliser de l'eau propre. Et aujourd'hui, on en est là pour le département de la Vendée.
Merci à David Brissot pour cet éclairage lucide. Ce qui nous semble complètement absurde sur le plan écologique et rationnel ne l'est donc pas du tout aux yeux de ces multinationales qui n'ont qu'un seul gouvernail, les profits qu'elles vont pouvoir faire tout en prétendant garantir la ressource en eau. On continue l'exploration de ces pseudo-absurdités avec Joël Lallemand, porte-parole de l'Association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son environnement dans les Deux-Sèvres.
Bonjour, alors moi je suis de l'API, qui est une association de protection de l'eau à Chizé. Cette association a été créée en 90, qui était une année particulièrement sèche, et où après des années de petits trous qui ont été creusés partout par la profession agricole, sans aucun contrôle, hein. Au départ, les gens faisaient des trous partout pour leur pompage. C'était un vrai gruyère. Et donc en 90, il a fait sec, je ne dirais pas que les vaches faisaient du lait en poudre, mais presque. Et on s'est retrouvé avec 600 km d'assec de rivière sur les 2000 du département. Donc là, il y a plusieurs associations qui se sont créées, dont la nôtre. Donc quel rapport, me direz-vous, avec la quantité de l'eau et la qualité ? Ben, il y en a un. Hein. C'est que moins il y a d'eau, plus les polluants sont concentrés. Et donc c'est vraiment un rapport. Et puis aussi, plus on prélève d'eau pour l'irrigation et pour l'agriculture, plus on est obligé de mettre d'intrants dans les plantes. C'est corrélé. Voilà. Alors je vais rassurer tout de suite Monsieur Oliva et David. Il existe aussi des très bonnes solutions qui ne coûtent pas un clou et qui sont low-tech pour gérer la qualité de l'eau. Donc en France, on fait ça depuis longtemps. Quand un captage d'eau potable devient non potable, eh ben on le ferme. Ça ne coûte pas cher du tout et ça marche très bien. Bon, évidemment, il faut aller chercher de l'eau un peu plus loin. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup de captage de très bonne qualité et il faut payer les tuyaux. La deuxième solution qui marche aussi très bien, c'est de mélanger les eaux. Donc j'ai une eau A qui est polluée par un polluant A. Je la mélange avec une eau B polluée avec un polluant B, jusqu'à ce que A et B se retrouvent en dessous du seuil de potabilité. Donc ça marche aussi très très bien et c'est pas très cher. Après, il y a quand même une solution, mais vraiment innovante, et alors pas chère du tout, gratuite, c'est de changer les seuils. Voilà, une eau qui n'était pas potable, un seuil, bah, il suffit de multiplier le seuil par 9, c'est ce qu'on fait en disant que le polluant n'est pas pertinent, et d'un coup d'un seul, bah, on a de l'eau potable. Donc ça a été fait, par exemple, à Fier-des-Lois, vous avez entendu parler de Fier-des-Lois, c'est l'usine qui fournit toutes les eaux en bouteille de Intermarché, et qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Donc ils avaient un polluant qui était un métabolite du chlorothalonil, qui dépassait largement le seuil de 0,1 microgramme par litre. Il était à 0,2, entre 0,2 et 0,4. Et là, il est devenu non pertinent, donc il peut aller jusqu'à 0,9. Donc c'est bon, ils ont ouvert l'usine. Après avoir laissé leur stock d'eau invendue sur un parking en plein soleil, et bien maintenant, 2 mois après, cette eau peut repartir dans les magasins. Vous allez la retrouver bientôt. C'est prévu pour la semaine prochaine. Il n'y a pas que l'usine de Fier-des-Lois. Par exemple, à La Rochelle, tous les captages d'eau potable qui alimentaient La Rochelle ont été fermés pour ce même chlorothalonil. Et bien, du coup, ils peuvent tous réouvrir. N'est pas belle la vie ? Et donc, on peut penser à la solution préventive. Ça paraît un peu évident que la seule chose à faire, c'est de sanctuariser les aires de captage d'eau potable. Donc là, actuellement, un captage d'eau potable, il y a à peu près 10 mètres sur 10 mètres sur lesquels on n'a pas le droit de traiter, et qui sont clôturés d'ailleurs. Et ensuite, ben, l'aire d'alimentation de captage, l'aire de proximité, qui fait plusieurs hectares, Ben, globalement, il n'est pas protégé. Alors l'air éloigné, n'en parlons pas. Il n'y a pas de protection du tout.
Et oui, voilà une sérieuse piste, une réelle protection des captages en imposant une agriculture bio sur toute la surface d'alimentation de ceux-ci. Un tel bon sens pourrait-il revenir au gouvernail dans la définition des orientations agricoles ? C'est le sens de l'appel du dernier intervenant, Vincent Pinon, membre de la Confédération paysanne.
Ce que je vais dire maintenant, c'est plutôt mes propres réflexions. Je ne suis pas un spécialiste de l'eau, mais le problème que l'on rencontre dans l'eau par les pollutions des pesticides, si on veut le résoudre, il faut changer de méthode d'agriculture. Et on parle beaucoup de solutions fondées sur la nature par rapport au technosolutionnisme. Je vais en donner deux exemples. Au siècle dernier, même avant, il y a eu une grave crise dans les vignes. C'est le phylloxéra qui était un insecte importé d'Amérique qui a détruit pratiquement l'ensemble du vignoble français. Et comme à l'époque, on n'avait pas d'insecticide, on a été obligé de trouver une solution. Et la solution, c'est ce qu'on appelle la greffe, le greffage. Et là où on n'a aucun produit chimique qui est utilisé. La technique de la greffe, c'est qu'on a été chercher des plants de vigne qui vivaient en Amérique et qui étaient résilients vis-à-vis du phylloxéra. Et sur ces plants de vigne, dont les racines sont dans la terre, on greffe un plant français qui produit notre raisin et notre vin. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est vous savez qu'en agriculture, on utilise beaucoup d'azote qu'on dit chimique. En fait, donc c'est l'azote de l'air qui est compressé, réduit en petits granulés pour être facilement remise aux cultures. En fait, la nature a développé des systèmes pour capter cet azote et la fournir aux plantes. Et c'est ce qu'on appelle les nodosités des légumineuses. En fait, les légumineuses, c'est une famille de végétaux qui ont coévolué avec des bactéries. C'est les bactéries qui captent l'azote de l'air et qui le redonnent après à la plante. Et au niveau mondial, il y a à peu près la même quantité d'azote qui est captée par les bactéries que d'azote qui est fourni de façon artificielle. Donc il y a des solutions qui existent. Seulement, il faut avoir la volonté de les mettre en place. Et pourquoi on est arrivé à cette agriculture avec des pesticides ? Pour ma part, je pense que c'est qu'on est parti sur une nutrition, une compréhension de la plante de manière erronée. Pourquoi ? Parce que on a fait des études hors sol. Quand on fait développer une plante en milieu avec de l'eau, si on lui ajoute des sels minéraux, on voit qu'elle pousse. Donc ça, c'est bien. Et c'est les fondements de l'agriculture traditionnelle que l'on a actuellement. Ce qu'on appelle l'agriculture aussi NPK, azote, phosphore, potasse. Et ça, pour moi, c'est complètement erroné, parce qu'une plante, naturellement, elle vit dans le sol. Et le sol, c'est un milieu qui est difficile à étudier et à comprendre. Mais petit à petit, on a de plus en plus de découvertes. Et pourquoi c'est erroné ? Je vais vous faire un exemple. Moi, je peux m'alimenter de deux manières, en mangeant, comme vous tous, du pain, des légumes, éventuellement des produits issus de l'élevage. Mais aussi, l'autre solution, c'est que je sois sous perfusion, où on me donne tout, par perfusion. Et l'agriculture que l'on développe maintenant, c'est une agriculture sous perfusion, avec tout ce que ça implique d'énergie pour fabriquer ce que l'on va nous injecter, tous les hôpitaux qui sont construits aussi, tout ça. Je pense qu'il faut avoir en tête cette façon qu'on a développé une agriculture sur une erreur fondamentale qui est la nutrition des plantes.
Le leitmotiv des intervenants, vous l'avez entendu, c'est que les choix qui sont faits en amont, non pris en compte des alertes des scientifiques, du principe de précaution, de la nécessité de protéger les captages, de changer de modèle agricole, ou en aval, technosolutionnisme, surenchère avec l'osmose inverse, la réutilisation des eaux usées, ont tout en commun de tourner le dos à la préservation de la ressource en eau dans le seul but d'alimenter les caisses de multinationales, alors que d'autres solutions existent, fondées sur la nature notamment. C'était quelques extraits donc de la table ronde du mardi 16 juillet à Mel, dans le cadre de la Semaine de l'eau. Vos oreilles attentives auront peut-être décelé la voix des interprètes qui traduisaient en simultané toutes les interventions en 4 ou 5 langues, car ces rencontres étaient internationales. Vous pouvez voir l'intégralité de cette table ronde, que j'avais eu le plaisir d'animer d'ailleurs, sur le site de Bassine Non Merci, je vous mets le lien. Autre information, la méga radio, radio éphémère à laquelle participait la Clé des Ondes à Mel, ressuscite en ce début septembre à l'occasion de la traversée des luttes de l'eau en direction de Venise. Je vous mets le lien pour écouter le flux de cette méga radio. Enfin, si vous estimez que notre encore président doit prendre en compte les résultats des élections et nommer comme premier ministre ou première ministre celui qui est porté par la force qui est arrivée en tête aux élections législatives pour mettre en place, par exemple, des mesures radicales de protection de la ressource en eau, eh bien sachez qu'une manifestation est organisée samedi 7 septembre à 11h, place de la Victoire. Nous n'accepterons pas ce vol du vote des électeurs qui consiste à lui substituer un Michel Barnier de la droite la plus rétrograde sur la base d'une combine avec l'extrême droite. Merci à Alex Plandé pour les notes musicales qu'il a apportées à cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter, nous podcaster sur le site de laclédesondes.fr/émission/climat de lutte en allant tout en bas de la page pour voir les présentations des épisodes précédents. À la semaine prochaine.